But I was cool.
Je n'ai jamais connu personne qui eut plus d'entrain et qui fut plus porté à la facétie que ce brave roi. Il ne vivait que pour les farces. Raconter une bonne histoire dans le genre bouffon et la bien raconter, c'était le plus sûr chemin pour arriver à sa faveur. C'est pourquoi ces 7 ministres étaient tous gens distingués par leur talent de farceur. Ils étaient tous taillés d'après le patron royal. Vaste corpulence, adiposité, inimitable aptitude pour la bouffonnerie. Que les gens engraissent par la farce ou qu'il y ait dans la graisse quelque chose qui prédispose à la farce, c'est une... mais plus décidée. Quant au raffinement, aux ombres de l'esprit, comme il les appelait lui-même, le roi s'en souciait médiocrement. Il avait une admiration spéciale pour la largeur dans la facétie et il la digérait même en longueur pour l'amour d'elle. Les délicatesses l'ennuyaient. Il aurait préféré le Gargantua de Rabelais aux zadigs de Voltaire et par-dessus toutes les bouffonneries en action accommodaient son goût, bien mieux encore que les plaisanteries en parole. À l'époque où se passe cette histoire, les bouffons de profession n'étaient pas tout à fait passés de mode à la cour. Quelques-unes des grandes puissances continentales gardaient encore leurs fous. C'était des malheureux, bariolés, ornés de bonnets à sonnette et qui devaient être toujours prêts à livrer à la minute des bons mots subtils en échange des miettes qui tombaient de la table royale. Notre roi, naturellement, avait son fou. Néanmoins, son fou, son bouffon de profession, n'était pas seulement un fou. Sa valeur était triplée aux yeux du roi par le fait qu'il était en même temps nain et boiteux. Dans ce temps-là, les nains étaient à la cour aussi communs que les fous et plusieurs monarques auraient trouvé difficile de passer leur temps, le temps est plus long à la cour que partout ailleurs, sans un bouffon pour les faire rire et un nain pour en rire. Mais, comme je l'ai déjà remarqué, tous ces bouffons, dans 99 cas sur 100, sont gras, ronds et massifs, de sorte que c'était pour notre roi une ample source d'orgueil de posséder dans Hop Frog, c'était le nom du fou, un triple trésor en une seule personne. Je crois que le nom de Hop Frog n'est pas celui dont l'avaient baptisé ses parrains, mais qui lui avait été conféré par l'assentiment unanime des 7 ministres en raison de son impuissance à marcher comme les autres hommes. Dans le fait, Hop Frog ne pouvait se mouvoir qu'avec une sorte d'allure interjectionnelle, quelque chose entre le saut et le tortillement. Une espèce de mouvement qui était pour le roi une récréation perpétuelle et naturellement une jouissance car, nonobstant la proéminence de sa panse et une bouffissure constitutionnelle de la tête, le roi passait aux yeux de toute sa cour pour un fort bel homme. Mais, bien que Hop Frog, grâce à la distorsion de ses jambes, ne put se mouvoir que très laborieusement dans un chemin ou sur un parquet, la prodigieuse puissance musculaire dont la nature avait doué ses bras comme pour compenser l'imperfection de ses membres inférieurs le rendait apte à accomplir maints traits d'une étonnante dextérité quand il s'agissait d'arbres, de cordes ou de quoi que ce soit où l'on pût grimper. Dans ces exercices-là, on avait plutôt l'impression qu'il s'agissait d'un écureuil ou d'un petit singe, voire même d'une grenouille. Je ne saurais dire précisément de quel pays Hop Frog était originaire. Il venait sans doute de quelque région barbare dont personne n'avait entendu parler. À une vaste distance de la cour de notre roi, Hop Frog et une jeune fille un peu moins naine que lui, mais admirablement mieux proportionnée et excellente danseuse, avaient été enlevées de leur foyer respectif dans des provinces limitrophes et envoyées en présent au roi par un de ses généraux chéris de la victoire. Dans de pareilles circonstances, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'une étroite intimité se fût établie entre les deux petits captifs. En réalité, ils devinrent bien vite les deux amis jurés. Hop Frog, qui, bien qu'il se mît en grand frais de bouffonnerie, n'était nullement populaire, ne pouvait pas rendre à Tripetta de grands services, mais elle, en raison de sa grâce et de son exquise beauté de naine, elle était universellement admirée et choyée. Elle possédait donc beaucoup d'influence et ne manquait jamais d'en user en toute occasion au profit de son cher Hop Frog. Dans une grande occasion solennelle, je ne sais plus laquelle, le roi résolut de donner un bal masqué. Et chaque fois qu'une mascarade ou toute autre fête de ce genre avait lieu à la cour, les talents de Hop Frog et de Tripetta étaient à coup sûr mis en réquisition. Hop Frog, particulièrement, était si inventif en matière de décoration, de types nouveaux, de travestissement pour les bals masqués, qu'il semblait que rien ne pût se faire sans son assistance. La nuit marquée par la fête était arrivée. Beaucoup de personnes avaient déterminé les rôles qu'elles adopteraient, une semaine ou même un mois en avance. Et en somme, il n'y avait incertitude ni indécision nulle part. Excepté chez le roi et ses 7 ministres. Pourquoi hésitait-il ? Quoi qu'il en soit, le temps fuyait et, comme dernière ressource, ils envoyèrent chercher Tripetta et Hop Frog. Quand les deux petits amis obéirent à l'ordre du roi, ils le trouvèrent prenant royalement le vin avec les 7 membres de son conseil privé. Mais le monarque semblait de fort mauvaise humeur. Il savait que Hop Frog craignait le vin, car cette boisson excitait le pauvre boiteux jusqu'à la folie. Et la folie n'est pas une manière de sentir bien réjouissante. Mais le roi aimait ses propres charges et prenait plaisir à forcer Hop Frog à boire et, suivant l'expression royale, à être gai. Viens. Viens. Viens ici, Hop Frog. Nous avons besoin de types de caractère, mon brave, de quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Nous sommes fatigués de cette éternelle monotonie. Allons, bois ! Le vin allumera ton génie. Hop Frog s'efforça comme d'habitude de répondre par un bon mot aux avances du roi, mais l'effort fut trop grand. C'était justement le jour de naissance du pauvre nain et l'ordre de boire à ses amis absents fit jaillir les larmes de ses yeux. Quelques larges gouttes amères tombèrent dans la coupe pendant qu'il la recevait humblement de la main de son tyran.
Vois ce que peut faire un bon verre de vin et tes yeux brillent déjà, Hop Frog.
Pauvre garçon. Ses larges yeux étincelaient plutôt qu'ils ne brillaient, car l'effet du vin sur son excitable cervelle était aussi puissant qu'instantané. Il plaça nerveusement le gobelet sur la table et promena sur l'assistance un regard fixe et presque fou. Ils semblaient tous s'amuser prodigieusement du succès de la farce royale.
Et maintenant à l'ouvrage, dit le premier ministre, un très gros homme. Oui, allons Hop Frog, prête-nous ton assistance. Des types, mon beau garçon, des caractères. Nous avons besoin de caractères, nous en avons tous besoin.
Et comme ceci visait sérieusement au bon mot, ils firent tous 7 chorus au rire royal. Hop Frog rit aussi, mais faiblement, et d'un rire distrait. Allons, allons, dit le roi impatienté. Est-ce que tu ne trouves rien ?
Je tâche de trouver quelque chose de nouveau,
répéta le nain d'un air perdu, car il était tout à fait égaré par le vin.
Tu tâches ? Qu'entends-tu par ce mot ? Ah, je comprends, vous boudez. Il vous faut encore du vin. Tiens, avale ça !
Et il remplit une nouvelle coupe et la tendit toute pleine au boiteux qui la regardait et respira comme un essoufflé.
Bois, te dis-je, ou par les démons !
Et le nain hésitait. Le roi devint pourpre de rage. Les courtisans souriaient cruellement, Tripetta, pâle comme un cadavre, s'avança jusqu'au siège du monarque et s'agenouillant devant lui, elle le supplia d'épargner son ami. Le tyran la regarda pendant quelques instants, évidemment stupéfait d'une pareille audace, et il la repoussa violemment loin de lui. Il lui jeta à la face le contenu de la coupe, pleine jusqu'au bord. La pauvre petite se releva du mieux qu'elle put et, n'osant à peine soupirer, elle reprit sa place au pied de la table. Il y eut pendant une demi-minute un silence de mort, pendant lequel on aura entendu tomber une feuille, une plume. Ce silence fut interrompu par une espèce de grincement sourd, mais rauque et prolongé, qui semblait jaillir tout d'un coup de tous les coins de la chambre. Pourquoi faites-vous ce bruit ? Demanda le roi, se retournant avec fureur vers le nain. Et ce dernier semblait être revenu à peu près de son ivresse et regardait fixement, mais avec tranquillité, le tyran en face. Il s'écriait simplement
« Moi ? Mais comment pourrais-je être moi ?»
Le son m'a semblé venir du dehors. J'imagine que c'est le perroquet à la fenêtre qui aiguise son bec au barreau de la cage.
« Ça doit sûrement être vrai, » répliqua un des courtisans. « Mais sur mon honneur de chevalier, j'aurais juré que c'était le grincement des dents de ce misérable. »
Là-dessus, le nain se mit à rire et déploya une large, puissante et épouvantable rangée de dents. Bien mieux ! Il déclara qu'il était tout disposé à boire autant de vin qu'on voudrait. Le monarque s'apaisa et Hop Frog, ayant absorbé une nouvelle rasade sans le moindre inconvénient, entra tout de suite et avec chaleur dans le plan de la mascarade.
Je n'ai pu expliquer comment s'est faite cette association d'idées, mais juste après que votre majesté ait frappé la petite et lui ait jeté le vin à sa face, juste après que votre majesté ait fait cela, et pendant que le perroquet faisait ce singulier bruit derrière la fenêtre, il m'est revenu à l'esprit un merveilleux divertissement. C'est un des jeux de mon pays et nous l'introduisons souvent dans nos mascarades, mais il serait absolument nouveau ici. Malheureusement, ceci demande une société de 8 personnes et...
Et nous sommes 8, s'écria le roi, riant de sa subtile découverte. 8, juste, moi et mes 7 ministres. Voyons, quel est ce divertissement, Frog ?
Nous appelons cela les 8 orangs-outans enchaînés. Et c'est vraiment un jeu charmant quand il est bien exécuté.
Nous l'exécuterons.
La beauté du jeu consiste dans l'effroi qu'il cause parmi les femmes.
Excellent !
C'est moi qui vous habillerai en orang-outan. Fiez-vous à moi pour tout cela. La ressemblance sera si frappante que toutes les masques vous prendront pour de véritables bêtes et naturellement, ils seront aussi terrifiés qu'étonnés.
Oh ! C'est ravissant. Hop Frog, nous ferons de toi un homme.
Voyez-vous, votre Altesse, les chaînes auront pour but d'augmenter le désordre par leur teinte amarre. Vous êtes censé avoir échappé en masse à vos gardiens. Votre Majesté ne peut se figurer l'effet produit dans un bal masqué par 8 orangs-outans enchaînés que la plupart des assistants prennent pour de véritables bêtes, se précipitant avec des cris sauvages à travers une foule d'hommes et de femmes coquettement et somptueusement vêtus. Le contraste n'est pas à son pareil.
Le roi et ses ministres furent d'abord insinués dans des chemises et des caleçons de tricot collant, puis on les enduisit de goudron. À cet endroit de l'opération, quelqu'un de la bande suggéra l'idée de plume. Mais elle fut tout d'abord rejetée par le nain qui convainquit bien vite les 8 personnages par une démonstration oculaire que le poil d'un animal tel que l'orang-outan était bien plus fidèlement représenté par du lin. En conséquence, on en étala une couche épaisse par-dessus la couche de goudron.
On se procura alors une longue chaîne. D'abord, on la passa autour de la taille du roi et l'on s'y assujettit. Puis autour d'un autre individu de la bande et l'on s'y assujettit également. Puis successivement autour de chacun de la même manière. Quand tout cet arrangement de chaîne fut achevé, en s'écartant l'un de l'autre aussi loin que possible, ils formèrent un cercle. Et, pour achever la vraisemblance, Hop Frog fit passer le reste de la chaîne à travers le cercle en deux diamètres, à angle droit, d'après la méthode adoptée aujourd'hui par des chasseurs de Bornéo qui prennent des chimpanzés ou d'autres grosses espèces. La décoration de la salle avait été abandonnée à la surveillance de Tripetta. Mais dans quelques détails, elle avait probablement été guidée par le calme jugement de son ami le nain. C'était d'après son conseil que pour cette occasion, le lustre avait été enlevé. L'écoulement de la cire, qu'il eût été impossible d'empêcher dans une atmosphère aussi chaude, aurait causé un sérieux dommage aux riches toilettes des invités qui, vu l'encombrement de la salle, n'auraient pas pu tous éviter le sang, c'est-à-dire la région du lustre. De nouveaux candélabres furent ajustés dans différentes parties de la salle. Hors de l'espace rempli par la foule et des flambeaux d'où s'échappait un parfum agréable, fut placé dans la main droite de chacun des quatre ides qui s'élevaient dans les murs au nombre de 50 ou 60 en tout. Les 8 orang-outans, prenant conseil de Hop Frog, attendirent patiemment pour faire leur entrée que la salle fut complètement remplie de masques, c'est-à-dire jusqu'à minuit. Mais l'horloge avait à peine cessé de sonner qu'ils se précipitèrent, ou plutôt qu'ils roulèrent tous en masse, car, empêchés comme ils étaient dans leur chaîne, quelques-uns tombèrent et tous trébuchèrent en entrant. La sensation parmi les masques fut prodigieuse et remplit de joie le cœur du roi. Comme on s'y attendait, le nombre des invités fut grand qui supposèrent que ces êtres de mine féroce étaient de véritables bêtes d'une certaine espèce, sinon précisément des orang-outans. Plusieurs femmes s'évanouirent de frayeur, et si le roi n'avait pas pris la précaution d'interdire toutes les armes, lui et sa bande auraient pu payer leur plaisanterie de leur sang. Bref, ce fut une déroute générale vers les portes, mais le roi avait donné l'ordre qu'on les fermât aussitôt après son entrée, et d'après les conseils du nain, les clés avaient été remises entre ses mains. Pendant que le tumulte était à son comble et que chaque masque ne pensait qu'à son propre salut, on aurait pu voir les chaînes qui servaient à suspendre le lustre et qui avaient été également retirées descendre, jusqu'à ce que son extrémité recourbée en crochet fût arrivée à 3 pieds du sol. Peu d'instants après, le roi et ses 7 amis, qui avaient toujours marché sur leurs talons, les engageant à prendre garde à la commotion, se saisit de leur chaîne à l'intersection des 2 parties diamétrales. Alors, avec la rapidité de la pensée, il y ajusta le crochet qui servait d'ordinaire à suspendre le lustre, et en un instant, retiré comme par un agent invisible, la chaîne remonta assez haut pour mettre le crochet hors de toute portée et conséquemment enleva les orang-outans tous ensemble, les uns contre les autres et face à face. Les masques, tous les masques, pendant ce temps, étaient à peu près revenus de leur alarme. Et comme ils commençaient à prendre tout cela pour une plaisanterie adroitement concertée, ils poussèrent un immense éclat de rire en voyant la position des singes. « Gardez-les-moi ! Gardez-les-moi !» cria alors Hop Frog, et sa voix perçante se faisait entendre à travers le tumulte. « Gardez-les-moi ! Je crois que je les connais, moi. Si je peux seulement bien les voir, moi, je vous dirai tout de suite qui ils sont !» Alors, chevauchant des pieds et des mains sur les têtes de la foule, il manœuvra de manière à atteindre le mur. Puis, Arrachant un flambeau à l'une des cariatides, il retourna comme il était venu vers le centre de la salle, bondit avec l'agilité d'un singe sur la tête du roi et grimpa de quelques pieds après la chaîne. Abaissant la torche en permanence pour examiner le groupe des orang-outans et criait toujours « Je découvrirai bien vite qui ils sont, moi, bien vite !» Et alors, pendant que toute l'assemblée, y compris les singes, se tordaient de rire, le bouffon poussa soudainement un sifflement aigu, et la chaîne remonta vivement de 30 pieds environ, tirant avec elle les orang-outans terrifiés qui se débattaient et les laissaient suspendus en l'air entre le châssis et le plancher. Hop Frog, cramponné à la chaîne, était remonté avec elle et gardait toujours sa position relativement aux 8 masques, rabattant toujours sa torche vers eux, comme s'il s'efforçait de découvrir qui il pouvait être. Toute l'assistance fut tellement stupéfiée par cette ascension qu'il en résulta un silence profond, d'une minute environ. Mais il fut interrompu par un bruit sourd, une espèce de grincement rauque, comme celui qui avait déjà attiré l'attention du roi et de ses conseillers, quand celui-ci avait jeté le vin à la face de Tripetta. Mais dans ce cas présent, il n'avait pas lieu de chercher d'où partait le bruit. Il jaillissait des dents du nain qui faisait grincer ses crocs comme s'il les broyait dans l'écume de sa bouche et dardait des yeux étincelants une rage folle vers le roi et ses 7 compagnons dont les figures étaient tournées vers lui. Je commence à voir qui sont ces gens maintenant. Alors, sous prétexte d'examiner le roi de plus près, il approcha le flambeau du vêtement de l'un dont celui-ci était revêtu et qui se fondit instantanément en nappe de flammes éclatantes. En moins d'une demi-minute, les 8 orang-outans flambaient furieusement au milieu des cris d'une multitude qui les contemplait d'en bas, frappés d'horreur et impuissantes à leur porter le plus léger secours. À la longue, les flammes jaillissant soudainement avec plus de violence contraignirent le bouffon à grimper plus haut sur sa chaîne, hors de leur atteinte. Et pendant qu'il accomplissait cette manœuvre, la foule retomba pour un instant encore dans le silence. Le nain saisit l'occasion et prit de nouveau la parole.
« Maintenant, je vois distinctement de quelle espèce sont ces masques. Je vois un grand roi et ses 7 conseillers privés. » Un roi qui ne se fait pas scrupule de frapper une fille sans défense et ses 7 conseillers qui l'encouragent dans son atrocité. Quant à moi, je suis simplement Hop Frog le bouffon. Et ceci est ma dernière bouffonnerie.
Grâce à l'extrême combustibilité du chanvre et du goudron auquel il était collé, le nain avait peine à finir son œuvre de vengeance, mais elle était accomplie. Les 8 cadavres se balançaient sur leur chaîne, masse confuse, fétide, fuligineuse, hideuse. Le boiteux lança sa torche sur eux, grimpa tout à loisir vers le plafond et disparut à travers le châssis. On suppose que Tripetta, en sentinelle sur le toit de la salle, avait servi de complice à son ami dans cette vengeance incendiaire et qu'ils s'enfuirent ensemble vers leur pays, car on ne les a jamais revus.
Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle.
Merci Marguerite. Edgar Allan Poe fut un écrivain américain qui naquit à Boston en 1809. C'est un pauvre petit enfant adopté. Il connaîtra une jeunesse instable et ira chercher fortune à New York.
Dear little town blue, oh, I'm leaving away.
et patati et patata, puisqu'il épousera sa jeune cousine Virginia. Oh, ce n'est pas bien, Edgar Allan. En 1836, tu commettras l'inceste, et cette pauvre Virginia décédera en 1847, soit à peine 11 ans après. Mine de rien, au gré du temps, Edgar Allan Poe, tout en collaborant à des revues, eh bien se réfugia dans l'alcool. Il fut un poète. Hostile aux effusions lyriques du romantisme, il déploiera dans ses nouvelles un monde fantastique et morbide et donne précisément le modèle de construction paralogique qu'imiteront par la suite nombre de romans policiers. Pour exemple, Les aventures d'Arthur Gordon Pym en 1836, Histoire extraordinaire en 1840, Nouvelles histoires extraordinaires en 1845. C'est dans cet ouvrage que vous pouvez retrouver la nouvelle d'Hop Frog. Edgar. Ben, on va t'appeler Edgar Allan Poe, ou Edgar Allan Poe d'un coup si tu veux, si tu nous entends, fut malheureusement méconnu par ses compatriotes. Par contre, son œuvre fut révélée à l'Europe par les traductions de Charles Baudelaire. Il mourut à Baltimore en 1849. Je vous donne rendez-vous à demain, sinon...
Bien!
Comme dirait un de mes amis avec des dreads longs.
Bien! Voilà!